Allez, Bac FM, on est parti, il est 10h30, on est en direct et on va parler cinéma avec Laetitia, générique.
Silence! Moteur!
Allons-y!
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre!
Moteur! Et action! Monster!
Et nouvel épisode de votre rendez-vous ciné-action avec un programme bien chargé. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche avec ma fidèle copilote d'émission Laetitia. Salut Laetitia.
Salut Théo.
Ça va?
Bah très bien et toi?
Ça va, un petit film du grenier en fin d'émission
ouais.
Encore. De quoi on va parler?
Eh ben, est-ce que t'as déjà un grand-oncle bourré qui t'a fait croire que t'avais été échangé à la naissance?
Mais Laetitia, on a tous un tonton bourré qui nous dit qu'on est adopté, bien sûr.
Et ben voilà, ça va être un petit peu le thème du film du grenier.
Eh ben on a hâte d'être en fin d'émission. C'est en fin d'émission, juste avant qu'on aura les sorties ciné avec un film très attendu et des affiches jeunesse aussi. Manuel nous présentera évidemment un film, notre spécialiste ciné, que vous retrouvez également le vendredi à 13h. On regardera ensemble la programmation de la semaine de l'Acné, l'association des cinéphages de Nevers. On n'en parle pas beaucoup dans Action et j'ai décidé de les mettre à l'honneur de films cette semaine proposés par l'Acné. On va revenir dessus tout à l'heure. Et puis des concerts projetés sur grand écran aussi. Et Letty, je sais que t'es contente de ce qui arrive au mois d'août, je crois.
Ouais, il va y avoir un gros événement à Nevers.
On va en parler. Un événement aussi. Et alors là, je vous le dis, ça va cartonner. Et une deuxième fois, vous verrez de quoi je parle. Surtout que le cinéma coûte moins cher cette semaine à l'occasion de la fête du cinéma. Toutes les places à 5€ du 2 au 5 juillet. Même principe que pour la semaine du cinéma, en fait. C'est important de le dire et c'est important de le mettre en avant, la fête du cinéma du 2 au 5 juillet. L'occasion de voir pour moins cher les nouveautés de cette semaine ou les films encore à l'affiche et ceux qui sont entrés dans le box-office. Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant avec une première place sans surprise. C'est Manuel qui nous présentait ce film d'animation semaine dernière, Letty. Film très attendu pour toute la famille, la nouvelle création Disney-Pixar qui donne vie aux éléments dans la vie d'Element City et qui crée une histoire entre le feu et l'eau avec comme message eh bien, que même les opposés peuvent cohabiter. 370 000 entrées pour la première semaine d'Elementary, élémentaire en français, c'est le carton de cette semaine et ça va continuer j'en suis sûr dans les semaines à venir. Et puis derrière les films français sont toujours absents, c'est les blockbusters qui occupent les 2, 3 et 4e places, mais qui galèrent hein, quand même. Spider-Man Cross the Spider-Verse, mon anglais est à revoir, dépasse le million, la France est le 7e pays où le film marche le mieux. The Flash et Transformers sont les gros bides de ces dernières semaines, ils restent en dessous du million après 15 jours d'exploitation, ce qui fait d'eux un échec. Et puis direction la ville d'Asteroid City pour la 5e place du box-office. Le dernier Wes Anderson attire 120 000 curieux. Je sais que ce film, toi, t'avais attiré un petit peu l'œil, hein, Letty.
Ouais, j'avais bien aimé l'esthétique un peu de l'image avec ses couleurs flashy là pour représenter les années 50. Et puis j'avais trouvé surtout qu'il y avait un casting exceptionnel.
Et ouais, notamment le casting hein, qui, je pense, a attiré le monde. Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks. C'est ce qui a participé aussi à la curiosité des spectateurs, tout comme le scénario qui nous emmène dans une ville désertique des États-Unis où des événements révolutionnaires vont bouleverser de façon spectaculaire l'itinéraire d'une conférence de jeunes astronomes et de cadets de l'espace. Asteroid City est toujours à l'affiche de votre ciné Mazarin, vous pouvez foncer le voir. Et Letty, tu te demandes, il est où le premier film français dans tout ça? Vas-y, demande-toi.
Bah, il est où Théo le premier film français dans tout ça?
Je vais vous le dire Laetitia. C'était une imitation de Sarkozy.
Mais oui, j'avais reconnu.
Eh bien, il est à la 9e place et c'est la comédie burlesque de Benjamin Lehrer, vainqueur du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2023. Cette intrigue portée par Didier Bourdon et Caroline Anglade en enquêteur et enquêtrice au style bien différent attire 45 000 spectateurs en une semaine. Tous étaient curieux de savoir qui se cachait derrière eh bien, ce tueur en série surnommé le ver solitaire. Qui sème des alexandrins sur ces scènes de crime et qui cause terreur et confusion au 38-5 quai des Orfèvres. Et puis juste devant, et on termine avec ça, et bien c'est la comédie délirante de ce début d'été. 50 000 spectateurs sont allés voir cette folle histoire du duo Jennifer Lawrence et Andrew Barth. Comment une jeune femme sur le point de perdre sa maison va essayer de régler ses problèmes financiers en tombant sur une offre d'emploi intrigante, bande-annonce.
Je suis conductrice Uber et j'ai pas de voiture. Je vais perdre ma maison.
Regarde ça.
besoin d'une voiture, sortez avec notre fils pendant l'été pour qu'il s'épanouisse avant d'entrer à la fac et nous vous donnerons une voiture. Sortez est entre guillemets. C'est forcément une blague.
Vu comme les parents sont impliqués, ça m'étonne qu'ils le dépucellent pas eux-mêmes.
Buddy,
on est très inquiets pour notre fils. Vous devrez apprendre à le connaître, pas juste sortir avec lui.
Mais aussi sortir avec lui et aller plus loin.
J'irai carrément loin.
Il est bénévole dans un refuge pour animaux.
Salut. Je peux toucher ta saucisse?
Quoi?
Ton chien. Ça te dirait que je te dépose chez toi?
C'est pas du tout le bon chemin.
C'est un raccourci. Oh, qu'est-ce que tu vas me sortir?
Pourquoi?
Vous avez essayé de me kidnapper?
T'as 19 ans, t'es plus un bébé!
T'en es où avec ton petit jeune?
On sort ce soir. Il va prendre un Long Island Iced Tea.
J'ai le droit d'être ici?
Arrête d'avoir peur de tout.
J'ai jamais bu un Iced Tea aussi dégoûtant. Okay. One thing about me,
I'm the baddest alive. You know the... Pour l'instant, ce gamin est imbaisable.
Il est sûrement stressé. Décoince-le.
On se fait un bain de minuit.
Et les requins?
Y en a pas ici.
Et les méduses?
Pas à la saison.
Et quand y a pas de maître nageur, il faut éviter...
Tu vas ramener ton cul, oui ou non?
Ok.
Ce qui est bien quand on vieillit, c'est qu'on s'en fout de ce que les gens peuvent penser.
Vous n'avez rien à faire ici, je vous demande de sortir.
Me
allez,
touchez dehors. Pas.
Je vous interdis de vous approcher d'elle.
On se calme.
Oh putain. Oh putain, oh merde.
Ça s'appelle The Challenge et c'est toujours à l'affiche de votre ciné Mazarin. On regarde maintenant ce qui arrive justement sur les écrans de votre ciné avec les sorties de la semaine. C'est parti.
Pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Et voilà, on a les droits.
Et 4 nouveaux films à l'affiche de votre ciné Mazarin cette semaine avec des propositions pour toute la famille. C'est le cas avec Ruby, l'ado Kraken, un film d'animation qu'on a déjà évoqué semaine dernière car il était en avant-première. On suit l'aventure d'une jeune fille de 16 ans qui tente désespérément de trouver sa place dans son lycée où elle a l'impression d'être totalement transparente. Et le jour où elle va désobéir à sa mère qui lui interdit de nager dans l'océan, elle découvre qu'elle est la descendante directe de la lignée des reines guerrières Kraken et qu'elle est destinée à monter sur le trône, jusque-là occupé par sa grand-mère, la reine guerrière des Sept Mers. Le seul véritable problème pour Ruby, eh bien, c'est qu'elle va devoir s'opposer à Chelsea, la nouvelle et la plus jolie, la plus populaire du lycée, qui se trouve être une sirène. Ruby devra alors embrasser son destin et s'imposer pour protéger ceux qu'elle aime le plus. Une aventure sous l'eau, encore, qui vous est proposée donc au ciné cette semaine après l'avant-première de ce week-end. Est-ce que t'étais bonne élève, toi, Letty?
Oh, assez moyennement. Hein.
Ouais, dissipée un peu
Surtout au lycée, oui, au lycée, assez dissipé.
Ben, je vais te dire quelque chose, heureusement que tu n'avais pas affaire alors à Maître Poutifard. Maître Poutifard, c'est un instituteur qui est maintenant à la retraite, il s'appelle Robert Poutifard, et il n'a plus qu'une idée en tête, se venger de ses anciens élèves qui ont gâché sa vie. Et pour l'aider à mettre en place son plan diabolique, il a la meilleure des complices à ses côtés, sa mère. Ensemble, ils vont en faire voir de toutes les couleurs aux anciens élèves, maintenant devenus adultes et dans leur vie professionnelle. La vengeance est un plat qui se mange froid et Robert Poutifard leur prépare une vraie surprise du chef. C'est la dernière création de PEF dans la lignée des profs et Gaston Lagaffe et il a choisi Christian Clavier dans le rôle de l'instituteur et Isabelle Nanty pour jouer sa mère. Invité de la matinale sur France 2, il parle de cette collaboration.
Je pensais pas qu'il accepterait ce personnage en fait parce que je l'ai jamais vu faire un rôle comme ça. Et je savais pas que, parce que vous voyez ce que je veux dire, l'acte final est assez incroyable.
Oui.
Je pensais pas qu'il oserait aller jusqu'au. Ça s'est fait en 24 heures. Il m'a juste dit, comment tu vas faire pour me rajeunir, quoi. Mm-hmm. C'était ouais. Ça, son angoisse. Et Isabelle Nanty, le contraire, comment tu vas faire pour me vieillir?
Les vengeances de Maître Poutifard, c'est drôle, et pour toute la famille. On change de décor et on part à la rencontre de Sam, un détenu exemplaire. À quelques mois de sa sortie de prison, il prépare sa réinsertion. Lors d'une permission, son passé va le rattraper et un accident ne lui laisse qu'un seul choix, la fuite. 5 ans plus tard, il a refait sa vie en Thaïlande où il a fondé sa famille, dont il a toujours rêvé, mais Narong, le parrain local, l'oblige à plonger à nouveau dans la délinquance. Et quand Sam veut tout arrêter, Narong s'attaque à sa famille. Sam va traverser la Thaïlande pour se venger de son bourreau. Un film d'une efficacité redoutable, nerveux et prenant, avec une violence sans complaisance. La critique salue ce film qui, je vous informe, est interdit au moins de 12 ans et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Et puis on termine avec un des films les plus attendus de l'année, ovationné au Festival de Cannes. Harrison Ford fait son retour dans le costume qu'il a porté pour la première fois en 1981. C'est présenté par notre spécialiste cinéma Manuel Housset, mais juste avant, bande annonce.
Je pars à la retraite.
Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on boit ?
Un verre pour ma filleule.
Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire.
Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue ?
On ne bouge pas.
Faut qu'on sorte d'ici. Stop ! Désolé.
Elena !
Le professeur Jones. Trouvez-le.
Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça.
Vous l'avez volé.
Et vous ensuite.
Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. À droite !
Attachez-vous, professeur. Nous ne sommes pas à l'abri de turbulences.
Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe.
Indy !
Fais-le l'embarber, Indiana Jones !
Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses.
J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris 9 balles. Une fois par ton père.
Ah ! Je suis désolé !
Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie.
Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, ultime aventure, et c'est à retrouver à l'affiche de votre ciné Mazarin. Aujourd'hui, donc, Manuel Plein-Feu, sur le retour du plus célèbre des aventuriers après 15 ans d'absence. Bonjour Manuel.
Oui, bonjour Théo, bonjour à tous. Et effectivement, tu as raison, c'est reparti. Indy cherche une relique du passé et il va affronter des nazis. On retrouve les nazis, hein, c'est un petit peu le fil rouge de cette saga. Alors, ça débute avec un prologue qui est situé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'archéologue, qui adopte alors le visage d'Harrison Ford, qu'on voit rajeuni hein, numériquement, va tenter de dérober un mystérieux cadran qui aurait été fabriqué par Archimède. Et après, eh bien, un petit saut dans le temps, l'action bascule en 1969, et fraîchement retraité, eh bien, l'aventurier Indy va voir débarquer sa filleule, c'est Elena, qui est incarnée à l'écran par Phoebe Waller-Bridge. Elle est trafiquante d'objets d'art et elle veut retrouver le cadran pour essayer de le vendre. Mais Indiana, bien décidée à l'en empêcher, va lui coller au basque et ils seront à nouveau pourchassés par des nazis qui sont persuadés que l'objet peut permettre, peut-être, de les aider à voyager dans le temps. Voilà le point de départ un petit peu de cette nouvelle aventure d'Indiana Jones, Théo.
En mode donc course-poursuite, Manuel, quel est ton avis sur ce cinquième volet ?
Eh bien, c'est un divertissement un petit peu à l'ancienne, je crois qu'il faut le dire. Ça a été revisité et modernisé par le réalisateur James Mangold. Et cet ultime opus des aventures du héros, au fouet et au chapeau, hein, ce sont les attributs d'Indiana Jones, brille par de nombreux aspects. Il y a des références qui sont réussies au volet passé. Il y a des scènes d'action hyper spectaculaires qui ont été tournées aux quatre coins du monde. Une mise en musique donc très réussie. Harrison Ford, 80 printemps, on en parlait ensemble hein, il y a quelques semaines, puisqu'il était venu présenter le film au dernier festival de Cannes. Eh bien, Harrison Ford, il joue avec beaucoup de malice, avec son âge. Et il forme un duo vraiment épatant avec, je le disais, cette actrice Phoebe Waller-Bridge, qui dynamite le récit grâce à une énergie inépuisable et puis aussi un solide sens du second degré. Résultat, eh bien, il faut pas bouder son plaisir, on se régale vraiment d'un bout à l'autre. Alors, les enjeux étaient de taille, il fallait remettre en selle la saga, incarnée par un comédien quand même âgé de 80 ans, faire oublier le quatrième opus qui avait pas été très glorieux.
Hein, qui avait floppé. Hein.
Non, voilà, effectivement, il faut l'avouer tout net. Et puis essayer de retrouver le charme des trois premiers épisodes et la magie du personnage, hein, on le rappelle, qui a été créé par George Lucas et Steven Spielberg. Donc, je vous le disais tout net, pari plus que réussi. Et Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est certainement l'un des meilleurs volets de cette saga.
Et donc, pari réussi pour le retour donc d'Indiana Jones sur grand écran. Et ce mercredi, Manuel, il est possible de s'offrir une réplique de son Fedora, le célèbre chapeau porté sur le tournage de l'un des films.
Oui, en effet, Théo. C'est ce que propose aujourd'hui une gigantesque vente aux enchères américaine qui va débuter officiellement tout à l'heure, à 17h, heure de Paris, avec la clôture des premiers lots. Les prix vont démarrer à $250, ce qui fait à peu près 228 € pour les plus petits lots. Et les enchères pourraient s'envoler jusqu'à 2 millions de dollars, ce qui équivaut à 1,8 million d'euros pour les deux plus beaux lots de cette vente. On peut les signaler. Une robe portée par Carrie Fisher, c'était la princesse Leia dans le premier Star Wars. Et puis, il y a la Batpod, hein, la moto qui est utilisée dans les deux films de la saga Batman.
Donc une vente aux enchères cinématographique. Quelles sont les autres pépites que tu as retrouvées dans ce catalogue de ventes?
Eh bien, Théo, j'ai repéré une robe portée par Kate Winslet dans Titanic. J'ai vu aussi le costume de Batman de Michael Keaton. C'était dans le premier Batman, hein, en 1989. Plusieurs sabres laser aussi de la saga Star Wars. Il y a le bouclier de Captain America. Théo, je sais que ça pourrait t'intéresser.
Oui, c'est vrai.
J'ai repéré aussi une réplique taille réelle de la fameuse voiture DeLorean. Ça, tous les fans de Retour vers le futur, bien sûr, seront sur les dents.
Et j'ai Laetitia qui hoche de la tête, hein, derrière ma vitre.
Ben oui, je comprends. Les aficionados sont forcément un petit peu en transe. J'ai repéré aussi dans le catalogue des pièces plus importantes, comme le bateau présent dans le 11e volet de James Bond, et notamment dans celui de Moonraker. Il y a la plaque de policier d'Eddie Murphy dans le Flic de Beverly Hills. Il y a la tenue de Tom Hanks dans Forrest Gump. Il y a le multipass du 5e élément. Ou bien encore le costume, ça c'est pour les amateurs, de films en costume. Là, le costume de l'acteur Russell Crowe, c'était dans Gladiator. Voilà pour les pièces les plus remarquables de cette vente aux enchères.
Qu'est-ce que tu aimerais te procurer, toi, Manuel, si tu devais choisir un objet de cette vente aux enchères?
Eh bien, moi, sans aucun doute, le Fedora, le chapeau donc porté par Indiana Jones, là, c'est un peu l'équivalent un peu d'un Stetson en feutre. Voilà, c'est un objet mythique et qui permet de se protéger du soleil, effectivement. Mais bon, je crois que les tarifs pratiqués feront que ça restera au
tu
stade du
fantasme. Tu seras
hors
course. Ouais, tu seras hors course.
Exactement.
Mais c'est d'actualité, donc, à l'occasion de cette ultime aventure qui sort aujourd'hui au cinéma. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Merci, Manuel, de nous avoir présenté ce film et on se retrouve vendredi, donc.
Oui, vendredi, et là, on changera de registre. Je vous parlerai d'un film italien de Nanni Moretti intitulé « Vers un avenir radieux ». Voilà, bonne
Merci,
journée à
Manuel.
Tous. Bon cinéma et allez vraiment au cinéma le vrai, comme je le répète souvent, sur grand écran. Voilà.
Merci Manuel, merci.
Au revoir.
Et puis c'est devenu quelque chose de plus en plus visible dans les cinémas, ce sont des projections de concerts, alors je trouve ça hyper cool. C'est le cas notamment avec le Civilization Tour, diffusion en exclusivité au cinéma du concert d'Orelsan, filmé à l'occasion de sa représentation à Paris La Défense Arena. Et c'est le cas aussi pour un groupe, alors la date d'Orelsan c'est au mois de septembre, c'est pour ça que je ne l'évoque pas. Vous pouvez aller voir sur le site internet du cinéma Zarin, ça vient d'être annoncé, c'est pour ça que je vous le donne. Mais on aura l'occasion d'en reparler à la rentrée, ne vous inquiétez pas. inquiétez pas. Et c'est le cas aussi pour un groupe et deux dates, je crois, Letty, que tu es ravie.
Bah oui, parce que ce groupe, c'est Metallica et son M. Alors, 72 World Tour, voilà, j'ai essayé de le dire sans l'écorcher. Et bah, ça débarque sur grand écran dans les cinémas du monde entier, dont le cinéma Zarin, à Nevers. Ce sera les 19 et 21 août prochains pour deux soirées qui vont être diffusées en direct d'Arlington au Texas. Alors, c'est un événement cinématographique mondial sans précédent qui va voir le légendaire groupe jouer. Il y a deux soirées, mais c'est deux setlists complètement différentes. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait au Stade de France en mai dernier. Et bah, on va retrouver un répertoire de chansons qui couvre plus de 40 ans de carrière, puisque Metallica va piocher aussi bien dans son premier album Kill 'Em All, sorti en 83, que dans le dernier album 72 Seasons, qui est sorti tout récemment le 14 avril. Et bah, ça va aussi passer par des classiques tirés de Master of Puppets, Ride the Lightning, Load, Reload, ou encore le mythique Black Album. Donc ça va faire plus de 30 chansons hein, sur les deux soirées, donc c'est énorme.
Ouais, dans un objectif aussi de permettre aux spectateurs d'aller à deux soirées pour avoir un show complètement différent.
Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et puis, bah, il faut savoir, alors au Stade de France, ils n'ont pas rempli, je crois, mais souvent, quand Metallica vend des billets, c'est rempli, ça part vite, et puis c'est pas donné, quoi. Donc là, ça permet de voir les concerts pour des budgets un petit peu plus modestes, et moi, je trouve ça vachement bien.
Et les concerts au cinéma sont de plus en plus des belles expériences. Hein.
Oui, oui, oui. Bah, là, justement, là, pour les concerts de Metallica, il va y avoir une technologie à la pointe, hein, avec des caméras très, très perfectionnées. Ouais. Ça va permettre un 360 degrés.
D'accord, ouais, sur la scène.
Sur la scène. Et bah, ça va permettre à chaque spectateur d'être vraiment, d'avoir l'impression d'y être, quoi, d'être au Texas avec eux. Quoi. Donc ça, c'est pareil. Je pense que c'est une jolie expérience.
Tu nous rappelles les dates, Letty ?
Ouais, 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 c'est les 19 et c'est les 19 et 21 août. Et ce que je te propose, Théo, c'est que pour se chauffer un petit peu, on va écouter The Unforgiven. Alors, c'est un classique du groupe, c'est extrait du Black Album et c'est un titre qui fait partie de la setlist du M70 World Tour.
Eh bien, on revient juste après avec d'autres événements qui arrivent au ciné. Mazarin, à toutes.
So I dubbed the unforgiven.
C'était les Metallica sur Bac FM à l'occasion de leur concert projeté au ciné Mazarin pour deux soirées exceptionnelles. C'est quand les rendez-vous, Letty ?
C'est les 19 et 21 août.
Et on peut déjà réserver les places sur le site ciné Mazarin. Je te laisse trouver un film dans ton grenier. Le temps pour moi eh bien, de prendre mes fiches pour parler de l'acné. Alors, je vous rassure, on va pas se percer les boutons. On va juste parler de l'association des cinéphages de Nevers qui vous propose des séances pour voir deux films, alors souvent qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Deux rendez-vous demain. Le premier est à 13h45 pour Neptune Frost, où l'on suit Mataluzza, un mineur du coltan, qui forme un collectif de cyber-pirates anti-colonialistes, après la mort de son frère. Évoluant dans une société autoritaire où la technologie règne en maître, il va rencontrer Neptune, un hacker intersexe. De leur union va naître une insurrection virtuelle et surpuissante. C'est demain à 13h45 et à 20h15. C'est un très beau film d'animation qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est la première expédition vers le pôle Nord de deux hommes accompagnés de leur chien, Titina. Extrait.
T'es toute seule, c'est ça?
Comment tu t'appelles?
J'ai cru entendre Titina.
Mon nom est Roald Amundsen, explorateur polaire. Je veux me rendre au pôle Nord, à bord d'un dirigeable. Et je veux que ce soit vous qui le construisiez. Vous avez emmené votre chien. Non ! Oh, non !
Non, attention !
Faites attention au chien !
Non, attrapez le chien !
Titina !
C'est de la folie. T'es sûr de vouloir faire ça ?
Titina, c'est demain à 20h15 et c'est proposé par l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers. Letty, tu vas nous parler d'un film sorti dans les années 80. Eh bien, figure-toi qu'un film sorti en 2002 ressort au cinéma et je suis heureux, je suis même très heureux et très impatient.
Moi aussi.
Il ressort le 5 juillet et le tarif des places restera de 5€, même après la fête du cinéma. Ça, c'est vachement bien. C'est un film de franchise. C'est celui qui a le mieux marché, 14 millions d'entrées à l'époque, un film réalisé par Alain Chabat qui a l'occasion à réaliser une bande-annonce encore une fois très réussie dans l'ADN des nuls du Burger Quiz. Écoutez.
Bonjour, je suis Alain Chabat. Quand j'ai tourné Mission Cléopâtre il y a plus de 20 ans, les couleurs du film étaient éclatantes, vives, chamarrées. Et puis, avec le temps et quelques passages télé, les teintes se sont délavées, les couleurs ont perdu de leur fraîcheur. Même avec une installation home cinéma, je ne retrouvais pas l'éclat digne des célèbres pyramides d'Égypte.
Des trucs pointus, là.
Mais aujourd'hui, tout a changé. Grâce à Cinéboost, le dernier né des laboratoires 4K. Sa formule enrichie en oligo-éléments plonge au cœur de la pellicule d'origine pour lui redonner tout son éclat et sa jeunesse. Grâce à Cinéboost, mon film a retrouvé toute sa fraîcheur. Plus grand.
Parfait !
Plus beau.
Ça fait plaisir.
Plus fort. Grâce à Cinéboost et sa lotion magique, même le son est plus puissant. Enveloppant. Décoiffant.
Je l'ai un peu changé.
Pour fêter les 21 ans et demi de sa sortie, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ressort en salle en version remasterisée 4K Dolby Atmos. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est 5€ la place, même après la fête du cinéma.
Ça va aller bien. Ça va aller très bien même.
Sorti le 5 juillet 2023. Quoi.
Astérix et Obélix revient au cinéma à partir du fin du 5 juillet quoi. Et c'est 5€ la place même après la fête du cinéma, c'est une super nouvelle. Letty, ça va marcher ou pas?
Bah j'espère que ça va marcher.
Ça va cartonner, c'est sûr.
En tout cas, on peut que conseiller aux gens d'aller le voir au cinéma ce film quoi.
Et je pense honnêtement, Letty, que ça va faire un meilleur score que celui de Guillaume Canet qu'il a sorti en début d'année, j'en suis sûr.
Ouais, c'est possible.
Il a fait 4 millions d'entrées, Guillaume Canet, ce qui est plutôt un bon score quand même, hein, c'est loin d'être dégueu. Mais la critique était hyper mauvaise sur ce film qu'il a refait là. Et je pense que celui-là qui est ancré dans la culture française, Astérix Mission Cléopâtre, c'est 14 millions d'entrées à l'époque. Je pense que les gens vont avoir envie de retourner le voir en plus au cinéma. Et alors, il paraît qu'il y a des nouvelles scènes aussi qui ont été rajoutées dans le film.
Et en plus, peut-être la nouvelle génération qui n'avait pas pu le voir à l'époque au cinéma, qui l'avait découvert en DVD, va vouloir le voir sur grand écran. Quoi.
Ouais, non mais carrément. Mais moi, je pense que je vais y aller en vrai. C'est même sûr. C'est une super nouvelle. Et donc, ça sort à partir du 5 juillet. Et je le rappelle, c'est 5€ la place, même après la fête du cinéma. La fête du cinéma qui a lieu du 2 au 5 juillet, on le rappelle, c'est 5€ la place pour toutes les séances, n'importe où. Est-ce que ton film, à toi, Letty, que tu sors de ton grenier, pourrait être restauré?
Ouais, je sais pas si c'est un grand intérêt qu'il soit restauré, mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas remoderniser un petit peu l'image. C'est un peu comme le film d'Alain Chabat, hein, ça a un petit peu vieilli quand même.
Ouais, c'est un peu vieilli, mais ça reste un film ancré dans la mémoire des gens.
Ouais, alors aujourd'hui, on va mettre de côté les tronçonneuses, etc. Aujourd'hui, c'est place au cinéma français avec La vie est un long fleuve tranquille. C'est le premier long métrage d'Étienne Chatillez. Il est sorti en salle en 88 et c'est un film qui va marquer les débuts d'un tout jeune acteur qui est devenu une référence dans le paysage du cinéma hexagonal. Cet acteur, c'est Benoît Magimel. Avant d'en parler un petit peu plus en détail de ce film, on va écouter la bande-annonce. Alors, le son est pas très bon, je m'en excuse, mais faut quand même se mettre un peu dans l'esprit du film.
Je vous raccompagne. Vous avez vu l'explosion au Moulin de la Vierge?
Oui, c'est terrible. C'est un quartier très préoccupant. Toute cette délinquance infantile.
Ne voyez pas avec les mêmes chances à la ville, les deux.
On tous me le payer.
Ils ont refilé le fils du directeur de l'EDF.
C'est l'occasion inespérée de se faire de l'argent.
On est le même jour.
C'est Bernadette, c'est ta grande sœur.
Putain, ils sont bourrés, ces cons-là.
Nous faisions tout pour son bonheur. Tout à coup, elle apprend qu'elle vient de ce milieu sordide. Toute cette bêtise, cette crasse, cette mère répugnante. Les frères et les sœurs tous plus débiles les uns que les autres.
Alors l'histoire du film,
quel tube.
L'histoire du film, ça se déroule dans une petite ville du nord de la France. C'était bien avant Bienvenue chez les Ch'tis, et c'est une histoire qui est centrée sur deux familles que tout oppose. Dans le quartier pauvre du Moulin de la Vierge vivent les Groseilles, c'est une famille de cassos qui vit d'aide sociale, de magouilles. Et puis dans le quartier huppé de la ville vivent les Lequesnois. Alors là, c'est une famille bourgeoise, catholique pratiquante. On a le père qui est directeur à EDF, on a la mère qui est très investie dans la vie paroissiale. Alors chacune des deux familles évolue au sein de son milieu social jusqu'à ce qu'une révélation explosive n'entremêle leur destin. 12 ans plus tôt, le soir de Noël, Josette, qui était infirmière à la maternité et qui avait été méprisée une fois de plus par son amant, le docteur Malval, elle s'était vengée en échangeant les deux nouveau-nés que ce dernier venait de mettre au monde. Et c'est d'ailleurs pour se venger une dernière fois de Malval que Josette finit par écrire une lettre à chacune des familles. Une lettre révélant que le jeune Maurice Groseille, qui est un garçon malin et débrouillard, est en fait un Lequesnois et que Bernadette Lequesnois, une jeune fille mal dans sa peau, est en fait une groseille. Alors l'annonce fait l'effet d'une bombe au sein des deux familles qui vont prendre rapidement une décision. Les Lequesnois vont garder Bernadette afin de lui éviter un traumatisme, elle est déjà assez mal psychologiquement comme ça, mais en revanche ils vont récupérer Maurice en offrant aux groseilles une coquette somme d'argent. Ce qu'ils ne vont pas voir venir, c'est que l'arrivée de Maurice au sein de la fratrie lequénois, ça ne va pas tarder à provoquer le chaos, surtout quand ses nouveaux frères et sœurs se mettent à fréquenter les enfants groseilles et que Bernadette apprend la vérité. Les parents lequénois qui pensaient ainsi avoir tout gagné en récupérant Maurice tout en gardant Bernadette vont assister impuissants au délitement de leur famille modèle, tandis que les groseilles, eux, ils vont mener la grande vie grâce à l'argent rapporté par Maurice.
Et justement, la vie est un long fleuve tranquille, c'est ce qu'on appelle les comédies un petit peu grinçantes.
Oui.
Et Étienne Châtillaise, ce qu'il a fait dans ce film, c'est qu'il exagère délibérément sur les clichés, en fait.
Ah ouais, il n'y a personne qui est épargné, hein, riche comme pauvre. Alors chez les groseilles, entre la mère qui est vulgaire au possible, le père qui est chômeur professionnel, le frère aîné qui sort de tôle, la sœur aînée qui est toujours prête à écarter les cuisses, elle va d'ailleurs dévergonder l'aîné des lequénois, et puis les petits derniers qui ne sont pas tout à fait terminés, le portrait est peu reluisant. Et chez les bourgeois, c'est pas beaucoup mieux, hein, entre un père psychorigide, une mère d'apparence douce et gentille qui en fait pète un plomb à la moindre contrariété, et les gosses qui sont tous plus cuculapralines les uns que les autres. Moi je te le dis, elle est belle la classe supérieure. On finit d'ailleurs par se demander qui sont les plus heureux et qui sont les plus à plaindre, ceux qui boivent de l'orangeade après la messe et qui passent leurs vacances au Touquet, ou ceux qui boivent de la Valstar achetée avec les allocs.
Et alors le lundi, c'est quoi?
Et le lundi, c'est ravioli.
Et oui, et Jésus revient. Voilà, c'est ce film, on le connaît aussi parce qu'il y a des répliques dedans qui sont mythiques, en fait.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de se lancer dans le cinéma, Étienne Châtillaise, il travaillait dans la pub. Et ça ressent beaucoup dans les dialogues du film. Donc là, tu viens de citer le lundi, c'est ravioli. Ça, c'est une réplique de Madame Lequénois qui dit aussi « Ne jurez pas Marie-Thérèse » quand elle reproche à sa bonne, qui est jouée par Catherine Jacob, de lui soutenir qu'elle est tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et puis, il y en a d'autres, des répliques. Il y a aussi le fameux je vais mettre la viande dans le torchon de Madame Groseille. Celle-là, je l'aime beaucoup.
Mais c'est des répliques qui sont restées en plus, oui, dans la culture populaire.
Mais oui, exactement. C'est des répliques qui sont quasiment rentrées dans le langage commun. Tu l'as évoqué, c'est la fameuse chanson Jésus revient, qui est interprétée par le curé, qui est incarné par Patrick Bouchiné. Bouchité, qui fait désormais partie intégrante de la culture populaire et qu'absolument tout le monde, je pense, est capable de fredonner.
Et alors, ce qu'Étienne Châtillaise ne s'attendait peut-être pas forcément, c'est que ce premier long métrage de sa part, ça a été un succès inattendu, un succès fou.
Oui, c'est vrai. Alors qu'il s'agisse des critiques qui ont été unanimes et qui ont couvert le film d'éloges, ou des spectateurs qui ont été au rendez-vous avec 4 millions d'entrées cumulées, ce qui est un chiffre exceptionnel pour un premier film, on peut parler de triomphe, pour La vie est un long fleuve tranquille, qui va d'ailleurs être récompensé par 4 Césars. Alors celui de la meilleure première œuvre, celui du meilleur scénario, celui du meilleur second rôle féminin pour Hélène Vincent qui fait Madame Lequénois, et celui du meilleur espoir féminin pour Catherine Jacob. Et puis on peut enfin noter que lors de sa première diffusion à la télé en 93, le film a fait un carton et s'est même classé parmi les 100 meilleures audiences françaises de tous les temps. Et ce jour-là, figure-toi que je faisais partie des téléspectateurs.
Mais tu sais qu'il va bientôt repasser à la télé.
Je pense, il le passe minimum.
Il passe tous les étés.
Oui.
Il passe tous les étés, donc de toute façon, il va pas tarder de repasser. Et puis, il est dispo peut-être sur les plateformes?
Alors, en ce moment, non, mais en général, ça tourne et ils le remettent régulièrement. Il n'y est pas pour l'instant, mais à mon avis, ça va pas tarder.
Merci, Letty,
pour
ce film
Théo.
Du grenier. Ça m'a fait plaisir que tu reparles de La vie est un long fleuve tranquille. C'est un film que j'aime beaucoup.
Moi aussi.
Merci beaucoup, Letty. On se retrouve pas, nous. On se retrouve à 18h, bien sûr, pour la rediff d'Action. On se retrouve, nous, à 13h avec mes invités du jour. On va parler musique, on va parler cinéma et il y aura les infos de la mi-journée à 13h.
Silence! Moteur!
Allons-y!
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre!
Moteur! Et action!